En fait, qu'est-ce qu'était la chance, c'est que M. Knobul est quelqu'un qui écrit énormément, hein. Il écrit entre 10 à 15 fois par jour dans son journal intime le temps, la température et l'heure qu'il faisait. Par exemple, des choses quand même spéciales. Et là, on avait la possibilité, après, d'une voix off, à travers ces journaux intimes qu'on avait trouvé ces écrits dans le dossier psychologique du procès, du premier procès, de, en fait, pouvoir utiliser ça comme texte, si vous voulez.
Toutes les notes qu'on entend dans le film sont basées sur ses écrits, c'est les vraies notes ou c'est vous qui avez un petit peu brodé, inventé?
Tous les notes sont que des notes de M. Knobul. Des fois, j'ai dû un peu raccourcir. C'est quelqu'un qui a écrit énormément. J'aurais pas pu tout utiliser. Aussi, dans la troisième partie, c'est un film en trois chapitres, hein, en gros. Dans le procès, c'est tous les notes qui ont été dites, dans le procès. Tout ça, on est très, très proche de la réalité.
Alors justement, par rapport à ces notes, on sent quelqu'un de très appliqué. Et donc, comme vous le dites, il note l'heure, il note la météo, ce que font les voisins. Mais en même temps, il est coupé de tout. Il est chez lui, sur une vieille machine à écrire, dans un appartement sombre. Il est complètement déconnecté de ce monde. Comment vous avez fait pour montrer l'évolution de cette folie, de cet isolement?
Je crois le plus fou dans toute cette histoire, c'est qu'en fait, M. Knobul avait déjà une perception, une peur de l'État. Et qu'à un certain jour, tout à coup, il y avait des policiers armés avec des casques devant sa maison et sa réalité à lui, quelque part, est devenue vraie. Ils sont ici pour me tuer. Et je crois que c'est ça qui est fou. Et dans toute l'histoire avant, justement, ce 8 septembre 2010, tout ça a augmenté l'État qui le pousse quelque part dans un coin. Il aurait peut-être probablement jamais rien fait, Monsieur Knobul. On sait ça aussi, la folie de toute cette histoire. C'est quand même l'État qui le pousse, mais lui, dans sa paranoïa, pousse aussi l'État à aller plus loin.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un film psychologique? Parce que vous auriez pu faire un film spectaculaire en prenant beaucoup de distance avec ce qui s'est passé. Parce que sans dévoiler toute l'intrigue, Peter K a un passé qui peut expliquer cette folie. On a aussi la police qui entre par la force dans son appartement. On a une traque. Donc, on avait tous les éléments pour faire un blockbuster. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film psychologique?
C'est vrai que pendant la deuxième nuit, quand M. Knobul revient à la maison après qu'il avait fui et il y avait une deuxième fusillade entre la police et lui, là j'étais sorti d'un bar à 1h30 avec un copain, il avait droit à un hélicoptère du Super Puma de l'armée qui avait volé sur la ville parce qu'ils étaient en train de rechercher un méga bordel. Après, avec mon pote, on a essayé d'aller dans le quartier. Bien sûr, on n'a pas pu aller dans le quartier. Et là, quelque part, c'était déjà clair en 2010 de pouvait faire un film sur cette histoire. Et d'abord, j'étais vraiment plus intéressé par ce côté spectaculaire, tous les policiers, la traque à l'homme et tout ça. Tout ça est dans le film, bien sûr, aussi. Mais après, dans ma recherche, en 2015, quand j'ai commencé à écrire le scénario, je suis justement tombé sur ces journaux intimes. Et là, quelque part, s'est ouvert un nouveau monde qui n'a été pas écrit dans les médias, qu'on n'a encore jamais entendu, de plonger, justement, quelque part, le spectateur dans le cerveau de ce criminel peut-être le plus connu de ce pays.
Pourquoi, d'après vous, il a aimé votre film?
Ça, c'est une question très difficile. Il a pu voir le film en prison. Il m'a écrit une lettre, aussi une lettre à l'acteur principal, à Manfred Lichtner. Il a dit qu'il était 100% d'accord avec le film. C'est vrai que ça, c'est très spécial parce qu'il a longtemps contesté que ce n'est pas lui qui a tiré sur le policier, mais un tireur d'élite aurait tiré sur son propre collègue, si vous voulez. Et tout à coup, il est d'accord. Hein, il m'a écrit, la lettre commence: imaginez-vous que c'était très bizarre de voir un film où le grand méchant n'était pas un gangster américain, mais moi-même. C'est comme ça que la lettre a commencé. Mais c'est vrai que j'étais un peu surpris qu'il soit autant d'accord, parce qu'on le critique quand même aussi assez fort, on le montre d'une manière colérique aussi. Qu'est-ce qu'il était, hein? Il y a des témoins qui ont dit ça dans les rues, qui l'avaient vu dans les rues de Vienne et comme ça. Et c'est vrai que j'étais quand même très surpris de cette réaction, que ça soit autant de noir sur blanc.
Vous faites quand même preuve d'empathie envers Peter K. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui l'a touché?
Je crois qu'on peut que avoir de l'empathie pour un homme qui a passé ses 70 ans maintenant, qui a jamais rien fait à quelqu'un, quelque part, mais qui, à travers des circonstances quand même très malheureuses, que lui pousse aussi, et l'État est très responsable aussi, a fini dans cette histoire tragique. À la fin, c'est une histoire très tragique de quelqu'un qui va finir sa vie en prison.
Un mot peut-être sur la police qui n'était pas du tout emballée à l'idée que cette affaire soit adaptée au cinéma. La police qui a accumulé les erreurs et les incompétences, hein, ça c'est un fait. Dans votre film, à travers les images d'archives, on entend beaucoup de responsables dire « c'est une personne très intelligente, extrêmement bien préparée ». Mais nous, je trouve que le spectateur, on n'a pas vraiment ce sentiment. En particulier lorsque Peter K s'en va avec son fusil, bah, il sort chez lui sans être arrêté par personne, un peu comme s'il partait acheter du pain. Et on a vraiment l'impression que la police a été très incompétente et que lui a eu un peu de la chance. Est-ce que c'est important pour vous de nous montrer ces images ?
D'abord, la police a vraiment complètement foiré, hein, ça on peut pas dire le contraire, ça c'est clair. Il y a eu trop de choses, déjà seulement qu'elle l'a cherché, Monsieur Knobby, pendant 4 jours avec la photo du père. Ça c'est quand même assez fou, hein, il faut vraiment le dire. Mais bien sûr, en réussissant de s'évader hors de la maison, il a eu de la chance aussi, Monsieur Knobby. Qu'il était un peu préparé, oui, je crois, mais pas autant qu'à ce moment-là, la police disait. Je crois que la police disait aussi ça. Il y avait même le bruit qui courait qu'il était un légionnaire étranger dans l'armée française, hein, un super professionnel Delta Force comme ça. Et puis que c'est pour ça qu'il a réussi à évader. À la fin, la police a quand même pas réussi. Mais je veux pas défendre la police, mais il faut aussi dire qu'en Amérique ou en France, probablement M. Knobby serait juste mort. Il serait entré. Il aurait über der Hufe geschossen, comme on dit en allemand, et puis ça serait été terminé, tout ça. Et là, il y a quand même un certain humanisme aussi de la police, là, de pas avoir eu feu vert pour tirer, qui a permis à M. Knobby de s'évader.